France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, bienvenue à Jean-François Kahn, un grand ami de la chanson et de l'opérette qui vient de fêter ses 80 ans. Sans rien perdre de sa verve ni de sa curiosité, on peut le constater dans son nouveau livre « Aime la maudite », une façon de se raconter uniquement avec des mots, commençant par la lettre M comme Massenet, Meyerbeer ou encore Mistinguette, Messager, Montéus, enfin tout ce qu'on aime. Jean-François Kahn à ce micro dans quelques minutes, mais auparavant, chapeau bas pour le merveilleux mélodiste qui nous a quittés voici quelques jours.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Ah, le merveilleux disque d'Yves Montand en 1968, paroles de Pierre Barou, musique de Francis Lay qui vient de nous quitter cette semaine. Je les avais reçus d'ailleurs tous les deux à quelques mois d'écart en 2015-2016 et je dois dire que je garde un souvenir merveilleux du rendez-vous chez Francis Lay. C'était tout près de la maison de la radio. On avait fait un grand entretien sur toute cette carrière commencée dans les bals populaires jusqu'à son arrivée à Paris avec Edith Piaf et puis évidemment Lelouch et puis évidemment tous les succès dans la chanson. Francis Lay, un personnage que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de France Musique. L'émission est à nouveau en lien sur la page d'actualité de France Musique. Il y a un spécial Francis Lay, francemusique.fr. Et vous pourrez également le retrouver demain à 19h pour une émission spéciale avec Laurent Valero. Repassez-moi le standard de 19h à 20h. Ce sera entièrement consacré à ce grand musicien. Je disais tout à l'heure ce grand mélodiste parce que Francis Lay avait un sens inné, inouï de la mélodie, des thèmes qui, au fond, on peut le dire, comme les plus grands musiciens, le feront rester dans l'histoire, par exemple, évidemment celui de Love Story.
Thank you.
le thème de Love Story dans une belle version orchestrale de l'orchestre de Franck Pourcel. Voilà, Francis Lay, donc, vous pourrez le retrouver sur francemusique.fr et demain avec Laurent Valero. Et puis tiens, Franck Pourcel, vous pouvez le retrouver aussi dans le superbe livre qui vient de paraître, la Bible des arrangeurs de notre ami Serge Elaïc, le grand livre sur les arrangeurs de la musique française, de la chanson française, qui vient de sortir aux éditions textuelles avec Pourcel et des milliers d'autres. On en reparlera dans une émission spéciale dans 15 jours.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais pour l'heure, évidemment, nous avons rendez-vous avec mon invité familier de cette émission. Mais c'est toujours une joie de le recevoir parce qu'il a cet enthousiasme, cette curiosité et cet amour des musiques que nous aimons. Ces musiques, comme M, justement, il les explore dans son nouveau livre qui est constitué uniquement de la lettre M, de mots qui commencent par M, une façon de se raconter lui-même avec un fil conducteur, comme il va nous l'expliquer dans un instant, Jean-François Kahn.
Nous avons plutôt tendance à prendre la vue tristement, et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.
Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame, « Mais vous m'attrapez les seins !» Je lui ai répondu, « Madame, il n'y a pas de quoi faire ce potin. »
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le doigt pour fond d'Alma.
On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile, dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le soir au pont d'Alma.
Chez une vieille douairière de 60 ans bien sonnée, des bandits masqués entrèrent et voulurent la violenter. Le mari criait arrière, je préfère que l'on me tue. Mais brusquement la douairière lui dit à quoi de sa mal-cul.
Mais voyons Gaston.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.
Bien sûr Gaston. Allons, allons, ma fille.
Oh, c'est à moi, vraiment. Oh. Comme on parlait de supplice dans un salon tricoté, quelqu'un dit aux îles Maurice, j'ai vu des gens empalés. Oh. Chacun dit, c'est sanguinaire, mais un jeune homme ravi s'écria, épouse ma chouette, si vous voulez mon avis. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soir au pont de l'Alma.
Monsieur le chef d'orchestre, allez-y.
Un soir au concert colonne éclata un grand scandale. Il y avait un trombone qui ne semblait pas normal. Le chef dit d'une voix rageuse, et nous jouons à nos airs, et vous vous jouez sans brémeuse. L'autre dit, et que ça peut vous faire?
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine.
Ça vaut mieux que d'avaler le pont de l'Alma. Ça vaut mieux que du vinaigre dans les sardines. Ça vaut mieux que de faire le zouave chez Ventura.
Bonjour Jean-François Kahn.
Bonjour.
Est-ce qu'on pourrait dire que cette chanson est d'actualité? d'une certaine façon, qu'elle est toujours d'actualité. Mais,
non, elle est d'actualité d'abord parce que date des années 30 et que...
Le 36 exactement.
Ouais, notre président a dit qu'on était de nouveau dans les années 30.
Voilà.
Et qu'en fait, dans les années 30, en effet, alors pour le coup, il y avait la montée, il y avait Hitler, Mussolini, il y avait la guerre qui montait. Et qu'est-ce qu'on chantait ? On chantait « Tout va très bien, Madame la Marquise
oui, », c'est vrai,
comme
c'est
par
vrai.
Hasard. On chantait ça, « Ça vaut mieux que t'attraper la
scarlatine »
ou voilà, ou « Yop la boum ». C'est très intéressant parce que on comprend pourquoi on a gagné la guerre de 14 quand on voit ce qu'on chantait avant.
Ah oui.
Et pourquoi on a perdu la guerre de 40 quand on voit ce qu'on chantait avant. Ouais. Cela dit, c'est formidable.
C'est une chanson formidable. Une chanson qui d'ailleurs fait partie d'une opérette qui s'appelait Normandie, qui sera reprise au mois de février. Je suis sûr que vous allez la voir parce que vous adorez l'opérette et vous adorez Réventura et ses collégiens.
Et Misraki.
Et Misraki, qui a écrit toutes les musiques. Et ça, c'est intéressant parce que vous le soulignez dans votre livre, dont on va parler dans un instant. Au fond, pour tout le monde, tout ça, c'est Réventura. Mais en fait, Réventura, généralement, c'est la musique de Paul Misraki.
Et des chansons de Trenet. Que tout le monde croit être
certaines, du moins.
Hein, certaines que tout le monde croit être de Trenet, c'est Misraki. Alors, à la fin de sa vie, il a tourné totalement mystique.
Oui. C'est vrai, il est devenu spécialiste des
cris. Oh là là, il est devenu...
notamment, je crois, Teilhard de Chardin.
Ah, oui, au mieux.
Mais je chante, effectivement, comme vous dites, je chante de Charles Trenet, par exemple. C'est aussi
c'est
la
une musique
de
Misraki.
Paul Misraki, ouais. Dont le nom commence par un M.
M.
Et vous venez d'écrire Jean-François Kahn, alors un très gros livre, hein, il y a quand même près de 700 pages, consacré à la lettre M, ça s'appelle M la maudite. Vous expliquez dans l'introduction qu'en fait, vous rêviez depuis longtemps d'écrire une espèce d'encyclopédie de tout ce qui vous passionne.
De contre, oui, encyclopédie, d'une certaine
de
manière.
De contre-encyclopédie,
c'est pas ce qu'on lit d'habitude dans les encyclopédies. Oui.
Mais que c'était tellement vaste que finalement, l'idée de suivre simplement ce fil d'une lettre...
C'est Pérec qui m'a donné l'idée.
Tout ce qui vous intéressait.
C'est Pérec. C'est le Georges Pérec. C'est-à-dire que il a fait un livre pour montrer que de ce tout que l'alphabet, on peut retirer une lettre.
La disparition.
Et faire un livre. Et je me suis dit, mais si je faisais l'inverse. C'est-à-dire montrer qu'à partir d'une seule lettre, on peut absolument tout dire et surtout oser dire des choses qu'on n'oserait peut-être pas dire sans ça.
Voilà. Donc vous parlez de plein de sujets qui ont tous en commun de commencer par la lettre M. Et vous parlez à travers ça de tout ce qui vous intéresse. Mais, au fond, le choix du M, il est totalement arbitraire, c'est
pas du
par
tout.
Hasard, non ?
Pas du tout, parce que j'écris des livres sur les médias, c'est M, j'écris sur le mensonge, c'est M, sur le marché, c'est M, sur la mondialisation, c'est M, et j'avais pas prévu Mélenchon et Macron. Mais
là, vous avez de la chance quand même. Hein.
Mais 68
Mais 68, Marx, etc., tous vos sujets sont dans la lettre M.
Voilà.
Absolument.
Et musicalement aussi, il y a beaucoup.
Alors musicalement, c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui, et je propose...
D'ailleurs, il y a une opérette
oui. Pardon, Jean-François
qui commence par M. C'est « J'aime bien mes moutons ». C'est quoi ? C'est la mascotte.
La mascotte. Et vous ne lui avez pas consacré un article.
Non, non. Voilà. Parce que c'est Audran. C'est « Ah, mais enfin, ça commence par M ». C'est très connu comme opérette.
Voilà, oui. Il y a des quantités de sujets, effectivement, notamment musicaux. Alors, c'était votre idée. On va commencer par un petit pot-pourri de plusieurs morceaux de musique célèbres qui ont traversé les âges et qui, eux aussi, commencent tous par la lettre M.
Chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter. Cette nuit qui lui donne son bonheur, partage le à toi, à
Et voilà trois morceaux qui commencent par M. Alors, je ne sais pas si tous les auditeurs les auront reconnus. Le premier, c'était facile, d'autant plus qu'il était chanté par Armand Mestral. Ouais. Mais c'était Minuit chrétien, Jean-François Kahn. Ensuite, Le menuet de Boccherini, par les comédiennes harmonistes. Et ensuite, La marche lorraine, par la musique des gardiens de la paix.
C'est une des marches les plus célèbres. Alors, c'est M, c'est marche.
Hein. Oui, bien sûr. Il y a un article d'ailleurs sur les marches. Dans votre,
c'est la plus
dans votre
célèbre avec Sambre-et-Meuse. Ouais. Et Sambre-et-Meuse qui est écrit par qui? Planquette.
Bien sûr, Planquette, le compositeur d'opéra.
Mais pour ce qui est de Minuit chrétien, je voudrais dire un mot. Oui. La façon dont c'est chanté, faut le dire, est ridicule. Hein. Ouais. C'est sympathique, c'est un document.
C'est d'époque.
C'est Armand Mestral. Mais c'est quand même chanté de façon ridicule. C'est magnifique. Ouais. Quand c'est très très bien chanté, c'est sans doute un des plus beaux cantiques qu'on ait écrit, qui est digne de Schubert et de Gounod, les Ave Maria. C'est magnifique. Qui l'a écrit?
Adolphe Adam.
Adolphe Adam. Adolphe Adam, qui a écrit un opéra comique que vous aimez beaucoup,
Le Toréador.
Le Toréador. Et qui a écrit quelque chose qu'ils vont jouer à l'opéra comique bientôt.
Le Postillon de l'Ange Jumeau.
C'est quand même formidable parce que c'est un peu comme si Francis Lopez avait écrit Jésus que ma joie demeure.
Voilà, c'est ça, oui. Mais vous mettez donc Adolphe Adam presque au niveau de Jean-Sébastien Bach en disant
non,
ça.
Non, pas. Il a fait que de la musique légère ou de l'opéra comique. Mais on voit avec Minuit chrétien qu'il avait un sens de la mélodie absolument extraordinaire.
Minuit chrétien, la marche lorraine et d'autres choses encore, ça ressemble un peu aux choses que vous entendiez enfant dans votre famille, Jean-François
Kahn.
Qu'est-ce qu'on écoutait chez les Kahn?
Le beau Danube bleu, j'étais à la campagne, hein, j'étais réfugié, mes parents m'avaient caché à la campagne, il y avait le beau Danube bleu et une chanson de Damien, je me souviens, qui s'appelle Dans la rue de nos amours.
Ah voilà.
Dans la rue de nos amours.
À la radio.
À la radio, ah bah oui, à la radio, avec une manivelle.
Ah oui, ah ça c'est pour les 78. Alors Jean-François Kahn, évidemment dans ce dictionnaire du M, presque pourrait-on dire, M la maudite, le nom de votre livre, évidemment, c'était difficile de laisser de côté Mozart. Et vous lui avez même consacré un article important. Hein. Oui. Je ne savais pas que c'était une de vos passions. C'est évident, c'est pour tout le monde, mais c'est le musicien.
Mais parce que je ne fais une entrée... que si j'ai
quelque chose à dire.
De personnel à dire. Par exemple, j'aime beaucoup François Mauriac, j'ai pas mis, parce que j'ai rien à dire qui n'ait pas été dit 100 fois. Oui. Par exemple, ou Modigliani, alors pour moi c'est un peintre formidable, mais j'ai rien d'original.
Alors que Mozart.
Mozart, parce que je pense que le drame de Mozart, c'est que ce succès inouï quand il avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, on n'imagine pas ce que c'était. Les empereurs, les rois, les papes, etc. Et plus son génie apparaît, et plus il est conscient de son génie, et plus tout à coup, son succès baisse. Et c'est quelque chose, vous imaginez?
Et
poignant, c'est comme. Alors, c'est pas vrai qu'il a été enterré tout seul, etc. Il était quand même encore célèbre quand il est mort. Mais ça n'avait plus rien à voir de ce que c'était quand il avait 8 ans, quoi.
Et puis alors, vous servez très bien aussi Jules Massenet, en rappelant effectivement un certain mépris qu'a pu avoir un certain type de mélomane pour cette musique, en France en particulier.
Alors en France, il y a un masochisme antinational sur le plan musical en France, il y a toujours eu. Vous savez que Berlioz était adulé partout, il n'y a qu'en France où on ne jouait pas ses œuvres. À part la symphonie fantaisie, on ne jouait rien. Et Massenet, ça s'est joué dans le monde entier, ça ne se jouait plus en France. Alors que c'est des œuvres... Alors on joue encore... on a joué Werther avec un succès...
Et Manon qui commence par un M.
On joue Manon qui commence par un M. Mais le Cid, c'est une œuvre formidable. Par exemple, Le Roi de Lahore, c'est très intéressant. Chérubin, dans une œuvre plus... C'est merveilleux. On joue très, très peu.
Et puis, vous tombez bien, c'est peut-être une des raisons de votre choix, parce que vous ne pouviez pas écrire un livre sans parler de Meyerbeer. C'est quasiment jamais arrivé, Jean-François Kahn.
Non, mais parce que ça fait partie, évidemment. Autant, si j'ai rien à dire, je ne dis rien. Mais je trouve qu'il n'y a pas simplement, quelquefois, des fausses gloires qu'il faut détruire. Il y a aussi à réhabiliter des gloires qui ne méritent peut-être pas, naturellement, de régner ou de planer au niveau de Mozart, mais qui sont très intéressantes. En plus, pourquoi on les joue plus? Pourquoi on ne jouait plus, par exemple, les Huguenots? On les joue plus en disant c'est la vieille musique, le peuple n'aime pas ça. Qui c'est qui décidait que le peuple n'aime pas ça? C'est une petite caste qui n'a rien à voir avec le peuple, c'est parce que c'est que le peuple qui décidait. Et quand on le joue, à chaque fois qu'on le joue, c'est un succès.
Vous
formidable.
Êtes allé à la Bastille, ça vous a plu?
C'était pas idéal comme mise en scène, mais n'empêche que le public marchait. Vous savez qu'ils l'ont représenté devant des jeunes de 12 à 18 ans. Ils ont été absolument enchantés parce que pour eux, c'est Hollywood. Il y a un côté hollywoodien, bon. Et les Huguenots, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais
vous auriez préféré qu'on monte le prophète.
Ah, le prophète, il y a des choses qui sont... Alors là, parmi les plus belles pages de l'opéra dans le prophète.
Et dans Dinorah, il y a un air que vous adorez.
Ah non,
Dinora ou le pardon de Chloé Hermel.
J'adore, c'est parce que quand même votre émission
vous aime la légèreté et la vocalise.
Vous aimez beaucoup la légèreté, la vocalise et l'opérette. Et au fond, c'est une opérette de Meyerbeer. Il a aussi écrit une opérette.
Ouais.
Et pour tous ceux qui aiment la vocalise, c'est quand même un morceau culte.
Ah oui, cet air-là dans une interprétation d'avant-guerre assez étonnante, air de la folie, on peut dire, de l'héroïne.
Voilà. C'est inouï. C'est absolument inouï.
Clara
Kléber, je sais pas où vous avez trouvé ce
chanteuse belge qui a fait une assez grande carrière. Là, c'était à la Monnaie de Bruxelles en 1930.
C'est inouï, voilà. D'abord parce que je connaissais pas cette chanteuse. Donc je découvre. Mais surtout parce que moi, je qui connais bien cette elle, je peux vous dire une chose, c'est qu'elle en rajoute.
Elle en rajoute. Ah, mais ça fait partie du jeu de la vocalise.
Elle en rajoute. Je peux vous dire. Ah là, c'est incroyable. J'avais jamais entendu dans cette version. Mais c'est absolument inouï.
Mais Jean-François Kern, vous êtes sensible, je dirais presque physiquement, aux frissons du contrute, du ténor ou de la soprano.
Je trouve ça extraordinaire.
Ouais.
Et puis en plus, c'est un aspect de Meyerbeer qui ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Ouais. Mais c'est pas ce à quoi je suis le plus sensible.
Dans la musique, la performance dans l'aigu.
Le duo dont je vous parlais, là, du prophète, par exemple, c'est l'inverse de ça.
Oui, c'est vrai. Alors voilà, en tout cas, c'était pour Meyerbeer qui est évidemment dans votre livre. M, la maudite, M, la lettre qui permet de tout dire, avec vous, en tout cas, Jean-François Kern. Ça permet de tout dire avec vous aussi, parce qu'il faut dire d'ailleurs, parlons un peu de vous, moi, un des traits de votre personnalité que je trouve fascinant, c'est votre gourmandise, votre curiosité de tout. Vous avez toujours été comme ça, comment vous expliquez ça? C'est pas si répandu. L'impression que tout vous intéresse, les arts, la littérature, la philosophie, la science, vous avez un appétit.
Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas, mais vous ne le savez pas.
Ah oui.
Par définition, on ne sait que ce qui m'intéresse. Mais en musique, oui, en musique, tout m'intéresse.
Tout vous intéresse.
Il y a des choses auxquelles je suis moins sensible.
Oui.
Par exemple, je suis très peu sensible, malgré mes efforts, au jazz moderne.
Oui, au free jazz, pas du
free
tout.
Free jazz, etc.
Ouais.
Non, pas, je fais des efforts, mais dans l'ensemble, oui, tout m'intéresse, tout me touche.
Vous qui étiez un tout jeune homme dans le Paris de la décennie des années 50, est-ce que vous êtes allé un peu dans les innombrables cabarets où se produisaient les chanteurs de l'époque?
Oui, vous avez j'ai vu Brel.
Oui.
Dans un cabaret. Je vous avais raconté, j'ai eu l'occasion un jour de vous raconter comment j'ai organisé le premier récital de Brel.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et sur la rive gauche, etc., tous ces endroits, la Brassens, Rose Rouge.
Brassens, oui. Philippe Clay,
oui.
Barbara. J'ai même malheureusement écouté un jour Léo Ferré en cabaret, c'était horrible.
Ah oui.
Il chantait des chansons engagées, poétiques, et
c'est
les gens faisaient du bruit avec leur assiette et leur fourchette.
Ah oui.
Et il s'est énervé, il a dit mais enfin, quand même, quand je chante, arrêtez de faire du bruit. Enfin, c'était horrible.
Bon, parce que, je dis ça parce que dans votre livre, vous rendez quand même, je dirais, un joli hommage, bah, avec certaines petites réserves, mais à Yves Montand.
Oui, comme chanteur.
Ouais.
C'est sans doute un peu vieilli. Parce qu'il y a un côté affecté qui ne se fait pas,
ouais.
mais c'est quand même, et dans la diction, et dans le jeu, et dans la modulation de la voix, c'est quand même formidable.
Qui n'a jamais vu Yves Montand sur scène ignore à quel degré de perfection technicienne, trop peut-être,
voilà.
On peut pousser la rigueur et l'exigence professionnelle,
voilà.
Et qui découvrirait aujourd'hui seulement l'interprète de Battling Joe ou de Luna Park, constaterait avec surprise qu'il fut un temps où l'on comprenait distinctement toutes les paroles de ce qui se chantait.
Ça, c'est quand même, on comprend tout, je veux dire.
Voilà.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait un professionnalisme qui peut-être était mécanique à la fin, peut-être tellement c'était parfait. Voilà.
Et le porte-parole du Parti communiste, dont vous avez fait partie, je crois, pendant 2 ans.
Quand j'étais tout petit, tout jeune. <ouais.
rire> Mon temps politique, que vous en pensez quoi?
Non, pas grand-chose.
Ce couple avec Simone Signoret.
Je crois qu'il n'y avait pas de montant politique. Enfin, il y a eu le montant politique qui avait les opinions de son frère.
Ouais.
Hein, et ensuite, il y a eu le montant politique qu'avaient les opinions de sa femme. Et ensuite, il y a eu le montant politique qu'avaient les opinions d'André Glucksmann.
Oui, c'est ça. C'est un bon résumé de l'évolution. Mais moi, vous m'avez donné envie de ressortir cette chanson brève, mais très jolie, qui s'intitule « Luna Park ».
Et ah bah, c'est, oui.
C'est Yves Montand en 1945.
Dans mon usine de puteaux, on peut dire que j'ai le fin boulot. Ça fait bien 365 jours de long que je visse toujours le même sacré petit boulon. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Dès que j'ai ma petite heure de liberté, je vais tout droit à Luna Park, dans le jour cru des lampes d'arc. Sur la chenille, je vois les filles, l'air de sous en soin, pilou en pilou, elles piquent, chantent comme moi. Le travail c'est ahurissant, pour le corps c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plutôt il y a des gars plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Luna Park est ma réserve de gaieté. À tous les stands, je suis salué des patrons et des habitués. Garçons et filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien à Luna Park. Je suis quelqu'un, vive Luna Park et vive la joie.
Love to go. Luna Park par Yves Montand, c'est joli, non?
Oui, c'est le côté, c'était l'époque ouvriériste un peu.
Oui, juste,
c'était
juste
aussi l'époque guerre, hein, de Montand, où la CGT emmenait d'ailleurs par car des militants écouter Yves Montand, plus le côté fasciné par l'Amérique.
Oui, c'est ça. Qu'il a commencé... En même temps, ben, c'est Luna Park, oui.
Et d'abord, c'est Joe l'Amérique, aussi. C'est la libération. Donc, oui. C'est l'Amérique, il a commencé comme ça, avec des chansons de western.
Ouais. Mais alors, donc, le Parti communiste, vous ça vous convenait pas, quoi. Vous vous sentiez pas...
Non, alors, ça, c'est un autre sujet. Je regrette rien, je vais vous dire, parce que j'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Ouais. Pour moi, la façon dont les socialistes avaient trahi sur l'Algérie...
Ah oui.
En se faisant élire sur la promesse de négocier en Algérie et accentuant la guerre, était telle. En plus, la droite, à l'époque, était encore presque néo-pétiniste. Et donc, à cet âge-là, bon, ben voilà, j'ai...
Tu avais fait un petit passage, par le grand parti de l'époque.
Et contrairement à la tradition qui est que quand on était communiste 2 ans, on écrit un livre...
Oui.
Pour le regretter.
Ah oui, c'est ça. Vous n'avez jamais fait avant d'honneur.
Moi, Dieu sait que je ne suis plus du tout et de loin, de très loin, mais je ne regrette absolument rien. D'abord, je vais vous dire, ça m'a appris beaucoup de choses.
Oui.
Ça m'a appris ce que c'était à l'époque, quelque chose de tragique et de formidable. Ce que c'était que le militant, totalement dévoué, oui. Totalement dévoué, pour qui il y avait une cause au-delà même de ses intérêts, mais qui en même temps... était complètement manipulé par des gens qui, eux, étaient au service d'une puissance étrangère. Donc, comment, de cette patte de la terre, ouais. Comment de cette qualité, de cette force, de cet enthousiasme, cette intelligence, on a pu, à ce point, détourner tout ça, ouais. Détourner, dévoyer cela. Pour moi, j'ai encore cette admiration des militants, et en ouais. Même temps, je ouais. Suis consterné par la façon dont cette force a pu être dévoyée.
Vous avez été inscrit à beaucoup d'autres partis par la suite ?
Jamais.
Plus
aucun.
Jamais.
Ah bon, d'accord. Pas aucun. Un jour, j'ai été à une réunion du PSU. Alors, j'étais absolument consterné. J'ai trouvé complètement dingue. C'était une bande d'intellectuels qui parlaient absolument sur les nuages.
Alors, Jean-François Kahn, bon, Montand, c'est les chansons de votre jeunesse, mais vous êtes remonté assez rapidement dans vos goûts vers des chansons qui étaient plutôt du temps de la jeunesse de vos grands-parents. Je pense par exemple à Miss Tinguette, à laquelle forcément vous consacrez un article passionnant. Mais justement, avant de parler de Miss Tinguette, oui, ce goût des chansons d'autrefois, c'est venu très vite.
C'est pas particulièrement les chansons d'autrefois, c'est qu'il se trouve que j'ai fait les émissions
sur à la radio,
sur la France Inter, sur la chanson, ouais. Et comme j'ai une formation d'historien.
C'est là que ça s'est...
Je me suis aperçu que, prenons Louis XIV, le règne de Louis XIV, comment vous savoir quelle était l'opinion, qu'est-ce que pensait le peuple, le petit peuple, de Louis XIV? Vous n'en savez rien. Vous ne croyez pas que les gouverneurs écrivaient la vérité sur l'état de l'opinion. C'était un régime totalitaire, Louis XIV. Donc tout était contrôlé, il n'y a pas de document écrit qui nous dit la vérité. La seule trace que l'on a de ce que pouvait penser la population
sur
Louis XIV, c'est la
populaire.
Chanson. Et les chansons au moment de la mort de Louis XIV, vous n'imaginez pas ce que c'est, la haine du roi, voilà. Et d'une façon générale, on voit monter la Révolution française avec les chansons horribles, d'ailleurs, ignobles, contre Marie-Antoinette, tout ça. Et donc, c'est l'origine de mon intérêt pour la chanson.
En tout cas, voilà, vous consacrez un joli article à Miss Tinguette, qui s'appelait en fait Jeanne Bourgeois, il faut le rappeler, mais qui est devenue Miss Tinguette. Et vous parlez notamment de cette chanson qu'on va écouter dans un instant, que j'adore, hein, qui est une espèce d'autoportrait, qui s'appelle C'est vrai, qui est écrite par Wilmette, mais qui en fait est un autoportrait assez, assez négatif, quoi.
Ah oui, parce qu'elle dit je suis moche, j'ai les grandes dents, je suis mal foutu, je chante mal.
Tout ça est vrai.
C'est vrai, absolument vrai, je chante mal, en vérité, je chante mal, je suis avare. Je suis près de mes sous, je suis égoïste. Enfin,
Mais pourquoi est-ce qu'elle était si populaire alors?
Sur lui. Pour ça.
Pour ça,
justement. Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne, car je ne peux pas, moi je vous le dis, passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant, on dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes, c'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines, c'est vrai. Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je serais pas distinguette si j'étais pas comme ça. que c'est bon quand on vient d'Amsterdam et qu'on a vu pendant des mois des tas de pays. De retrouver le macadam de Paname, ses autobus et son métro et ses taxis. Paris et ses boulevards avec tous ses bobards. On dit que j'ai de grandes connotes, que je n'ai que trois notes. C'est vrai. On dit que j'aime jouer les arpètes, les marchandes de violettes. C'est vrai. Mais ne voulant pas chipper aux grandes coquettes, leur dame aux camélias, moi je vends mes bégonias. On dit que je fais voir mes gambettes, mais je serais pas mistinguette si j'étais pas comme ça. Que je paye pas ce que j'achète.
C'est vrai.
On dit partout et l'on répète que je lâche pas mes pépettes.
C'est vrai.
Mais s'il faisait comme moi pour sa galette, Monsieur Sarrault n'aurait pas un budget aussi bas. Et si l'on mettait à la tête des finances distinguettes, on n'en serait pas là.
L'excellent orchestre de Pierre Chagnon avec Miss Tinguette dans cette chanson de Wilmette, musique de Casimir Oberfeld. Jean-François Kahn, c'est vrai que tout ce que vous voyez, elle s'auto-dénigre d'une façon merveilleuse.
C'est incroyable.
Et ça marche et ça fait son charme.
Wilmette, qui est quand même un des paroliers les...
Oui, alors le W a beau être une sorte de M à l'envers, vous ne pouviez pas mettre Wilmette dans votre dictionnaire.
Mais... C'est un génie. C'est aujourd'hui il y a Roda Gil, je dirais, qui est vraiment
de ce niveau-là.
Ouais, mais c'est vraiment un génie. Il a écrit la chanson que je déteste le plus au monde, parle son contenu, mais qui a un succès fou, qui est Félicie aussi. Mais
pourquoi vous la détestez tant que ça ?
Elle est quand même terrible, quoi. Enfin, ouais. Franchement, quand vous regardez les paroles,
oui, c'est un peu
quand même
effroyable,
quoi. Remarquez quand vous regardez la parole de ce que chantait Miss Tinguette, qui est mon homme, c'est quand même gratiné. Vous imaginez aujourd'hui ça ?
Ouais, il me fout des coups.
Il me fout des coups.
C'est pour ça que je l'aime.
Mais je l'aime, je ferai n'importe quoi pour lui. Attends, c'est incroyable cette chanson.
D'ailleurs, Jean-François Kahn, je disais chez vous, il y a un aspect de votre personnalité qui est la gourmandise, l'autre qui est, vous adorez faire des parallèles entre les époques, vous adorez l'anachronisme, vous adorez ce qu'un opéra d'autrefois peut nous dire sur aujourd'hui, ou une chanson, ce qu'elle nous dit de notre façon de penser aussi, avec Mon homme par exemple. C'est vraiment quelque chose de central chez vous, ça.
Bah, c'est pas ce qu'elle nous dit, c'est ou montrer ce qu'on ne pourrait plus dire.
Ou ce qu'on ne pourrait plus dire.
Et là, ça montre, montre une évolution. Oh, bah oui,
c'est très
ce
présent dans votre livre, voilà.
Sur le fait que mon intérêt pour la chanson, c'est la continuité de mon intérêt pour l'histoire. Incontestablement, ça dit beaucoup de choses. Mais même l'opéra. Meyerbeer, on en parlait tout à l'heure, ça dit beaucoup de choses.
Justement, les Huguenots, sur l'idéologie, le prophète.
Sur l'idéologie progressiste bourgeoise de l'époque. Voilà.
Alors, on ne peut pas évoquer tous les chanteurs qui sont présents dans votre livre, mais je signale aux amateurs qui sont nombreux, qui retrouveront un article passionnant de vous sur Mayol, par exemple, Félix Mayol, hein, encore un M, très important.
Pareil, il y a une chanson qui s'appelle « Les mains de femme »,
oui.
Je peux vous dire que
ça passerait
c'est
pas,
fait
hein.
Pour coudre, pour faire la cuisine, pour réparer les ourlets des robes, enfin vraiment.
Et puis...
Mayol, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit « Viens Poupoule ».
Oui.
« Viens Poupoule, viens Poupoule, viens... »
Immense vedette. Immense vedette.
Énorme.
Que Marcel Proust adorait, figurez-vous.
Immense.
Et puis Yamouloudji aussi dans vos chanteurs.
Yamouloudji qui était un chanteur. Il n'avait pas une belle voix, il chantait pas très bien. Ouais, il y avait un côté tapioca, les grumeaux de tapioca. Mais alors, quel choix, quelle intelligence dans les choix de chansons.
Dans son répertoire. Ouais.
Comme un petit coquelicot, pour ne prendre que cet exemple. C'est une merveille comme chanson. J'adore. Bah, hein. Ou Un jour tu verras.
Un jour tu verras.
C'est magnifique de Van Paris.
Alors on va passer un petit peu à l'opérette. Et évidemment, vous avez cité tout à l'heure la mascotte qui aurait pu être l'objet d'un article. Mais surtout, il y a le grand André Messager. que vous avez tenu à célébrer dans ce livre sur la lettre M, Jean-François Carn.
Ben, messager, c'est intéressant parce que il y a deux messagers. D'abord, il y a le messager que tout le monde connaît, enfin, plus exactement que tout le monde devrait connaître, qui est le messager des opérettes, pousser les scarpolettes. Oui. Et donc, il a fait toute sa vie des opérettes, des choses magnifiques. Mais en même temps, c'est lui qui dirige Pélias et Mélisande, c'est lui qui fait découvrir les dernières œuvres de Wagner et qui écrit d'ailleurs des choses très sérieuses, des concertos. Il y a les deux.
Les deux musiciens, ça, le grand esthète, très.
Et alors, le grand esthète, on a tout oublié.
On a tout oublié, c'est vrai.
Et ce qui reste, c'est en effet, c'est l'auteur de musique légère et d'opérette.
Voilà, avec notamment En amour, il n'est pas de grade.
Oui, c'est de coup de roulis, je trouve ça. Ouais, c'est un air, parce que c'est une chose que les gens connaissent. C'est à l'origine de la phrase, quand on aime, on commençait. On n'a pas tous les jours 20 ans.
On n'a pas tous les jours 20 ans, oui.
N'est pas de grade, l'important c'est d'avoir 20 ans. À Paris, à Rome, à Grenade, un jeune attaché d'ambassade vaut tout autant, je le prétends, qu'un ministre ventripotent, comme un tout petit lieutenant. Vaut un général de brigade, en amour il n'est pas de grade, l'important c'est d'avoir 20 ans.
Roger Bourdin dans Coup de roulis, opérette de messager, tiens, encore sur des paroles de Villemetz d'ailleurs, voilà. Jean-François Carn.
En amour, il n'y a pas de grade.
Voilà, l'important c'est d'avoir 20 ans, vous disiez c'est presque entré dans le langage courant.
Mais le nombre d'opérettes avec des phrases qui sont rentrées dans le langage courant.
Alors qu'on a oublié les opérettes.
Ah, c'est oui. Incroyable, mais c'est d'abord, ou des chansons.
Oui, par exemple.
Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres.
Ah oui, hein, ben voilà, Villemetz encore d'ailleurs.
Villemetz, et puis surtout la musique... de celui que je considère comme le plus grand musicien d'opérette,
Maurice,
qui est Maurice Yvain.
Qu'on adore tous les deux, ça, je suis bien d'accord avec vous, Jean-François Carn. C'est d'ailleurs pour moi un combat de longue date que Maurice Yvain et l'opérette, pour vous aussi. Et c'est d'ailleurs encore aussi un autre aspect.
Oui, mais là, moi je me bats depuis longtemps là-dessus, oui. Mais on commence à gagner.
On commence à gagner.
On joue beaucoup, et puis il y a eu un film en plus, à partir d'une opérette de Maurice Yvain. Là-haut, je sais que vous le passez de temps en temps, là-haut c'est un chef-d'œuvre, c'est une parfaite, c'est un chef-d'œuvre absolu. On aurait pu passer, comme pastille musicale, Plaisir d'amour, parce que Plaisir d'amour, c'est qui qu'a écrit ça, Martini, c'est M.
Oui, c'est vrai aussi, oui.
Ou bien La victoire en chantant, pourquoi c'est Méhul, c'est M.
En tout cas, je disais, j'évoquais Maurice Yvain, l'opérette, Meyerbeer, parce que ce qui est amusant aussi chez vous, Jean-François Carn, et on le voit bien dans ce livre-là, c'est qu'à la fois la curiosité, l'éclectisme, la gourmandise dont je parlais, et en même temps un certain nombre quand même... on peut dire presque d'idées fixes, qui sont les combats de votre vie et qui reviennent toujours sous des formes différentes dans vos livres, dans vos journaux, etc. Et qui sont illustrés évidemment ici par la lettre M, par les articles, médias, mensonges, mondialisation, modernité, etc.
Oui, il y a un discours derrière, évidemment.
Voilà.
Y il y a des choses que j'ai envie de dire, que je dis, que j'ai essayé souvent de dire, avec succès ou pas succès.
Voilà. Oui, mais ce sont les causes de votre vie.
C'est d'ailleurs, j'y investis absolument en même temps toute mon expérience. J'ai dépassé 80 ans, et donc j'ai quand même un bagage. Et je veux dire, si je parle de Mitterrand, je l'ai connu, de Manès-France, je l'ai connu, mais 58 ou 68, je les ai vécus, ça joue aussi.
Pour évoquer la 4ème République, vous aviez de la chance. Il y a à la fois Manès-France et Guy Mollet qui sont tous les deux par la lettre.
Que j'ai connu aussi, d'ailleurs.
80 ans, c'est vrai ?
Bah ouais.
Ça vous a fait un drôle d'effet ?
Je m'y attendais.
Ah oui. Vous n'étiez pas différent le lendemain de la veille, néanmoins. Et alors, il faut dire que ce livre aussi... Alors, il y a des tas d'articles très sérieux, il y a des articles de passion, de goût, et puis il y a des quantités de blagues aussi, presque de calembours, parfois sur des sujets beaucoup plus brefs.
Parce que ce que j'ai voulu, au-delà de retourner donc, le Pérec et de montrer qu'on peut tout dire, que c'est possible à partir d'une sonnette, de tout oser dire, vraiment. Tiens, je vais vous donner un exemple. C'est rien, hein, c'est un petit détail. Mais Mozart, à la fin de sa vie, on lui commande un opéra en lui disant « faites à l'ancienne, faites vraiment à l'ancienne ». Bon, il a besoin un peu d'argent, c'est normal, il le fait, il met d'ailleurs très peu de temps, il écrit en vitesse.
La Clémence de Titus.
La Clémence de Titus. Moi, personnellement, je trouve ça très chiant.
Oui, vous le dites carrément.
Profondément chiant. Mais vous pouvez pas dire que Mozart, c'est chiant, c'est impossible. Faut se mettre à genoux, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait écrit. Et donc, c'est aussi, dans mon idée de la contre-encyclopédie, c'est pouvoir dire ça. Voilà. Et en même temps aussi... Parce que c'est la vie. La vie, c'est quoi? C'est la prière et la religion, et c'est la rigolade et la pâte. C'est la déconnante, et c'est la réflexion. C'est l'érudition et les calembours. Et j'ai essayé d'intégrer tout ça, de montrer vraiment de pousser jusqu'à la dernière limite ce mélange des genres.
C'est presque un autoportrait, on peut dire.
En
ce sens. Et il y a aussi, alors par contre, si vous n'aimez pas la Clémence de Titus, vous aimez une œuvre qui est beaucoup moins prisée par les grands musicologues, c'est La Mélodie du Bonheur. Comédie musicale américaine.
C'est pas ça.
Non,
c'est
mais
pas...
Le succès,
d'abord, pour dire la vérité, je suis comme tout le monde, j'aime beaucoup.
Ouais.
Bon, mais avec le côté quand vous nous expliquez que les Autrichiens ont été des grands résistants à l'hitlérisme, qui est une blague totale.
Oui, ça c'est le sujet du livret. Oui,
c'est une blague totale. Mais c'est parce que j'ai retrouvé une critique d'un gros dictionnaire sur le cinéma. Alors, vous voyez, le mec très sérieux, très intello de gauche, quand même le type. Alors, il nous dit c'est nul, c'est lamentable, Mais d'accord, et c'est un des plus grands succès historiques du film musical. Mais on peut quand même se poser la question, c'est ce qu'on disait sur Meyerbeer, on peut quand même se poser la question, et puis pas un succès pendant un an, succès depuis, on peut quand même se poser la question. Quoi qu'on pense d'une œuvre, si elle a beaucoup de succès pendant très longtemps, il doit y avoir une raison, ou alors on se prend pour qui ? On se prend pour qui ?
D'ailleurs, La Mélodie du Bonheur, moi, je l'ai connue enfant, sans savoir ce que c'était, parce qu'il y avait une version française qui circulait beaucoup à l'époque, chantée par Mathé Alteri.
Vous savez, mes enfants, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et la suite ne sont que les outils qu'on utilise pour faire une chanson. Quand on a ces notes bien en tête, on peut chanter des milliers d'airs, tous différents. On les mélange comme ça. Écoutez.
Sol, Do, La, Fa, Mi, Do, Ré. Essayez d'en faire autant.
Sol, Do, La, Fa, Mi, Do, Ré.
Sol, Do, La, Si, Do, Ré, Do.
Sol, Do, La, Si, Do, Ré, Do.
Alors maintenant, je mélange les deux airs.
Sol, Do, La, Fa, Mi, Do, Ré. Sol, Do, La, Si, Do.
Mais ça ne veut rien dire du tout.
Alors on fait des paroles, on met un mot sur chacune des notes, comme ceci.
Quand on sait les notes, on chante tout ce qui nous chante. Allez debout.
Quand on sait les notes, on chante.
Comme ça, on revient à dos. Do, mi, fa, sol, do, si, do, do, si, do,
La version française de La Mélodie du Bonheur de Rodgers et Hammerstein en 1965 par Matteo Alteri. C'est toujours bien à réécouter, hein, Jean-François Cam.
Et alors, c'est un classique de l'opéra comique, en vérité, la leçon de musique.
Oui.
Et il y en a une formidable, dans quoi?
Il y en a quelques-unes, dans le Toréador notamment.
Il y en a une dans le Toréador, il y en a pratiquement partout, mais surtout, il y en a une formidable dans Le Petit Duc de Lecoq.
Bien évidemment. Sol, ré, sol, ah, la, si.
Voilà, c'est exactement la même idée.
Voilà, Jean-François Kahn qui signe donc ce passionnant dictionnaire personnel, M la maudite, avec que des mots qui commencent par M. Alors, je m'étais dit, tiens, il va sûrement quand même essayer de nous donner, même si c'est à peu près impossible, sa définition de la musique. Mais non, l'article sur musique, c'est seulement plutôt sur la musique contemporaine que vous avez creusé. Enfin, la musique est partout présente dans le livre, mais vous n'avez pas cherché à donner une définition générale de la musique.
Sur la musique contemporaine, j'ai fait...
Par contre, là, vous développez beaucoup.
Là, j'ai dû vous toucher quand même, parce que c'est quelque chose que... Non, moi, j'ai regardé un jour un programme dans toute l'Europe, même aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on joue à l'opéra? Alors je vois, on joue Don Giovanni, Puccini, la Bohème, que sais-je, Verdi, très bien. Qu'est-ce qu'on joue comme opéra moderne? Rien. Enfin, alors on me dit, ah oui, là on joue du Tilleul, c'était même pas un opéra, c'est de la musique du Tilleul. Dans l'ensemble, c'est des œuvres qu'on a écrites il y a 70 ans, c'est-à-dire l'espace entre Mozart et Beethoven, c'est-à-dire, et c'est encore la musique contemporaine. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne touche pas le public.
C'est plutôt, en fait, Britten et Poulenc, les plus modernes qu'on joue encore aujourd'hui. Ah, mais ça a vraiment 80 ans. Oui.
Ouais. Et donc, faut se poser la question. Et alors, ce qui est terrible, et ce qu'on n'ose pas dire, c'est que qu'est-ce qu'on joue comme musique, je dirais pas contemporaine, mais pas moderne. On joue Shostakovich et Prokofiev, c'est-à-dire deux musiciens à qui le stalinisme a interdit de faire la musique moderne. Et c'est parce que le stalinisme a interdit de faire la musique moderne au sens contemporaine, au sens dodécaphonique, atonale, que finalement aujourd'hui on les joue absolument partout. C'est terrifiant de réfléchir à ça.
Vous voulez dire que Staline avait raison?
Je dis pas que Staline avait raison, mais la conséquence c'est ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une structure d'audition et une structure d'émission. On peut complètement recomposer la structure d'émission. On peut, et d'ailleurs tout le monde l'a fait. Debussy l'a fait, Wagner l'a fait, et Larraille peu à peu s'y fait. Mais casser la structure d'émission, vous ne cassez pas comme ça la structure d'audition. C'est exactement comme la révolution bolchevique. Pour la même raison que la révolution bolchevique n'a pas marché, radicale de table rase de la musique contemporaine n'a pas marché.
Alors, par contre, d'ailleurs, vous montrez, Jean-François Kahn, votre...
J'ai peut-être choqué des gens.
Votre curiosité, sûrement certains, mais c'est le jeu. Vous montrez, en tout cas, votre curiosité pour une bonne partie de la musique du XXe siècle, et notamment, par exemple, il y a un très bel article sur Darius Milhaud.
J'ai un ami qui s'appelle Arrighi, qui a écrit un très très bel opéra de musique contemporaine, magnifique, sur Garibaldi. Malheureusement, on ne joue jamais, nulle part.
Et Milhaud, vous l'aimez bien?
Ah, mais Milhaud, c'est très intéressant parce que Milhaud a écrit des trucs, des opéras énormes, des oratorios énormes.
C'est pas toujours ce qu'il y a de
mieux.
Des
trucs sérieux.
Avec Claudel.
En marbre, en stuc, avec des colonnes corinthiennes. Misant en musique les œuvres de Claudel, faut dire que déjà, c'est pas folichon. Bon. Et ça a été oublié, complètement oublié. Et qu'est-ce qu'on retient? Bah, des trucs où il s'amuse, des trucs où il est naturel, des trucs où il fait, je sais pas, de la musique un peu folklorique,
jazz,
etc.
La musique brésilienne.
Et ça, c'est formidable. Là, on voit le génie du compositeur.
Thank you.
La création du monde dirigée par le compositeur Darius Milhaud en 1956. Darius Milhaud, sur lequel on trouve aussi un article fort intéressant dans le livre de Jean-François Kahn, entre les textes sur la politique, sur l'histoire, sur la philosophie, sur la littérature, etc., etc., sur la chanson, bien sûr. Et d'ailleurs, puisqu'on est le 10 novembre et que demain c'est le 11 novembre, Jean-François Kahn, je voudrais qu'on finisse l'émission avec quelques évocations de la Première Guerre mondiale, parce que vous êtes un historien aussi, comme vous l'avez expliqué, et en commençant par ce chanteur étonnant qui était Monteus.
Compositeur, hein, chanteur. Oui. Compositeur.
Compositeur et interprète.
Ouais, mais c'est Monteus. Ah oui, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Maintenant, il serait rejeté comme populiste.
Oui, ah, tiens le mot. Ah, voilà le mot qu'il nous fallait.
Populiste, c'est
Monteus, né en 1872, mort en 1952 après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a traversé les deux guerres, mais il a commencé comme chanteur anarch, on peut dire.
Oui, c'était anarcho-socialiste, enfin, etc. Et il a écrit des chansons très célèbres hein, à l'époque. C'était incroyable. D'abord La Jeune Garde, qui était une chanson qui a été très, très célèbre, ou les Braves Soldats du 17e, vous ne connaissez pas ça, ça
non.
Il y avait une révolte des viticulteurs dans le Midi.
Oui, bien sûr. Oui.
Et comme à l'époque, dans les régiments, il y avait les gens du cru. Donc, dans le régiment qui était à Montpellier, c'était des fils de viticulteurs. Et donc, ils ont refusé de tirer sur les viticulteurs et ils ont jeté leurs fusils. Ouais, et il a fait une grande chanson qui était très célèbre.
Chanteur engagé, antimilitariste.
Mais surtout, alors, il y a deux chansons. Une magnifique, magnifique, qui est La Butte Rouge. La Butte Rouge, c'est son nom. C'est magnifique, contre la guerre, mais après 14. Et alors, des chansons, je vous dis, populistes. Et en particulier, il y en a une qui s'appelle « Ils ont les mains blanches ». Ils ont les mains blanches, vous imaginez ce que c'est. C'est-à-dire, vous avez les bourgeois, les riches, ils ont les mains blanches. Et puis, il y a les pauvres, ils ont les mâches calleuses, etc. Ouais. Et c'est sur un air de valse. Ils ont les mains blanches, des mains de feignants. Mais enfin, c'est les paroles de cette chanson. Vous n'imaginez pas ce que c'est dans le populisme exalté.
On va pouvoir imaginer parce qu'on va écouter justement une partie de Ils ont les mains blanches et puis ensuite justement cette Butte Rouge, alors qui est vraiment une terrible évocation de la guerre de 14, qui se réfère à un lieu très précis, hein, je crois pendant la guerre,
qui a été un massacre.
Bapaume,
sur... Voilà.
Un massacre et cette butte qui dégouline de sang.
Ça, c'est magnifique.
Ils ont les mains blanches, réservoir, montez-y. Voyez donc cet aristocrate, mal comme eux qui fait des dépasses, qui passe sa vie à noter. À 20 ans, c'est déjà cassé, comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse, incapable de gagner son pain. Voilà le type du précandant. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnagnant. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de Chicolette, pas de Marlou ni de beau Muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la Calette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira ce vin-là, boira le sang des copains.
sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce. Comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains.
Deux enregistrements de Montéus. Le premier, alors c'était de l'acoustique, vous avez entendu, il faut tendre un peu l'oreille, mais le second, c'était en 1930, La Butte Rouge, et c'est encore un des héros du nouveau livre, si j'ose dire, de Jean-François Kahn.
Et alors c'est intéressant, Montéus. Parce que alors le Montéus, pendant la guerre, en 14, alors là, il est devenu ultra-patriote.
Voilà, c'est ça, évidemment. Après avoir été un chanteur vraiment.
Et il est redevenu
ouvrier.
Au pacifisme après-guerre, d'où La Butte Rouge, qui est quand même absolument un chef-d'œuvre. À la fin, il a été décoré de la Légion d'honneur par Vincent Auriol. Ah, c'était pas votre Ancel, celui-là.
Non, c'est pas loin.
Et il a commis, malheureusement, à la fin de sa vie, une chanson « Vas-y, Léon », pour Léon Blum.
Pour Léon Blum, au moment du Front populaire.
Mais il était très très doué. Mais je vous dis, vous avez vu le populisme. On n'oserait pas aujourd'hui pousser le populisme, ouais. Dans la chanson, ils ont les mains blanches.
Jean-François Kahn, demain, donc c'est le 11 novembre 2018. Quand vous êtes né, il y avait encore des quantités d'anciens combattants de la guerre de 14. Vous les avez vus grandir, vieillir, puis disparaître.
Mais j'ai vécu là-dedans. Vous imaginez pas à quel point c'est vrai ce que vous dites. J'ai vécu, j'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, au milieu de gens qui racontaient la guerre de 14-18. Je n'ai jamais connu des gens qui racontaient la guerre de 40.
Ah oui, c'était
pas glorieux. Ou bien, c'était pas glorieux, ou bien ils revenaient de camp de concentration et ils ne le disaient pas.
C'est ça.
Il y avait une espèce de pudeur incroyable.
Ouais.
Mais alors, la guerre de 14-18, c'est comme disait Brassens, moi, mon colon, c'est celle que je préfère. D'ailleurs, faut dire que c'est quelque chose terrible. Enfin, comment on a pu faire ça? On n'imagine pas. C'est le truc les plus fous, les plus affreux, les plus ignobles que c'est, cette guerre. Mais c'est vrai que ça pesait sur les gens pendant très longtemps. La chanson a joué un très grand rôle hein, pendant la guerre de 48, d'un côté comme de l'autre.
Oui.
Aussi bien des chansons pacifistes après. Par exemple, après-guerre, il y a une chanson très jolie qui mérite qu'on retrouve, qui est ne faites pas jouer à la guerre vos enfants, ne leur offrez pas des jouets de guerre, etc. C'est une très 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 belle chanson contre la guerre. Et il y a eu aussi des chansons bellicistes, par exemple il y a quand même une chanson sur l'air de Maton Kiki, Maton Kinoise, qui dit ma mitrailleuse. Et c'est et absolument obscène quand je la prends par la culasse. Et il y a des allusions absolument terribles. Et il y en a une autre sur la baïonnette, où elle dit un hymne à la marionnette, quand elle rentre et qu'elle est blanche, elle ressort, elle est rouge, et des trucs que vous n'imaginez pas.
Et la paix ratée, si on peut dire, de 18, elle est responsable de tous les malheurs qui allaient suivre jusqu'à la Seconde Guerre?
Oui, la paix ratée, je pense que oui, d'une certaine manière, parce qu'elle est responsable d'abord de la montée du nationalisme allemand, incontestablement. Et puis parce que les Balkans, c'est le résultat de la balkanisation justement de l'Europe centrale. Cela dit, on n'aurait pas pu l'éviter parce que ça a été absolument spontané.
Alors on va écouter Jean-François Kahn, La Garde de Nuit sur l'Isère. Là, c'est pas la lettre M, mais c'est la Première Guerre mondiale.
Ouais. Ben alors là, écoutez bien, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, c'est Damia. Et faut écouter la voix de Damia pour savoir ce que c'était que ce phénomène. Faut voir. C'est cette espèce de force, de voix de tripe qui parle des profondeurs, cette possibilité de arc, de colère, enfin, dont était capable. C'est extraordinaire. Mais surtout la chanson. Alors c'est sur un air célèbre, hein. C'est pas un air fait pour cette chanson. C'est un air sur lequel on a fait beaucoup de chansons avant. Mais le style, le poème, si vous voulez, sur un épisode de la guerre, qui est la guerre de l'Isère, enfin la bataille de l'Isère. C'est absolument inouï. Écoutez.
Un rayon de lumière, lueur et
éphémère, rampe encore sur terre au long des boyaux. La nuit tombe, tombe, apprêtant la tombe, et la mort en trombe pour bien des héros. C'est l'heure indicible où l'humaine cible frissonne impassible au fond de son cœur, et c'est l'heure obscure où sous notre armure s'insinue sur la main de la peur. Bah, léger mécompte, l'angoisse se dompte, et le sang remonte, orgueilleux et vif, doigt sur la gâchette, le soldat furette, et par la nuit guette d'un œil attentif. Les canons rugissent, les balles ratissent, les abris gémissent sous les coups de fer, et plus la barre des plus longs bombardes, plus belle est la garde au bord de l'hiver. Clarté fulgurante, fleur éblouissante, traînée sanglante dans le ciel tout noir, c'est une fusée qui monte irisée de l'enfer, lâchée comme un feu d'espoir. Alors tout se fige, alors au prodige, par le seul prestige de cet œil ouvert, tous les nerfs se tendent, les âmes se bandent, et les cœurs attendent l'holocauste offert. Mais le vent se lève, là-bas vers la grève, il assaille et crève le manteau des cieux, des nues s'affaissent, fuient, se dépaissent, des étoiles naissent en clignant des yeux. Et soudain, près d'elle, de lugubres ailes, des ailes mortelles, passent en brombissant, quelques gouttes à passe, il passe vorace, jalonnant sa trace de flaques de sang. Et le temps s'enroule, et la mort se soude du sang qui s'écoule en flots monstrueux. Grisé de tumulte, la Camarde exulte, et son geste insulte aux plus valeureux. Elle arrive lente, lâche, patiente, immonde, démente, implacable, hélas. Et sa main fantasque, dédaignant le casque, glisse sous le masque le poison des gaz. Enfin la calmine, une voix bénie s'élève soudain. Le jas taciturne sent dans l'air nocturne le clocher de furne qui s'émeut lointain. Il s'émeut et chante la chanson vivante, l'heure de détente du prochain éveil. La nuit se lézarde, l'aube les blafarde, fini la garde, voici le soleil.
Magnifique Damia dans la garde de nuit sur l'Isère, Jean-François Cannes, c'est extraordinaire, oui, c'est vrai.
C'est extraordinaire. Ben, je suis content que vous m'ayez permis de faire entendre ça.
Même si c'est pas la lettre M.
À votre public, c'est 11 novembre.
C'est le 11 novembre. Merci en tout cas. C'est toujours passionnant de bavarder avec vous. Ça pourrait durer des heures encore. Vous aviez commencé, tiens, à propos de la lettre M, un cycle sur le haut Moyen-Âge. On peut dire les origines de la France.
L'origine des Français, oui.
Vous y remettez bientôt, alors c'est votre prochain.
Je vais voir.
Vous allez voir. Vous avez plusieurs chantiers en cours. Et puis, on pourrait finir peut-être quand même par trois mots, encore la lettre M, sur la Marseillaise.
Ah oui.
Surtout que vous dites dans votre article, ce que je ne savais pas, qu'en fait, Roger de Lisle était devenu royaliste.
Un jour, en 1830, il y a une révolution.
Oui.
Comme vous le savez, oui, il y a les barricades. Oui. Et alors, Roger de Lisle arrive dans un dîner en ville où il était invité. Il est échevelé, il est livide. Et il dit, mais ça va très mal, ça va très mal. Il chante la Marseillaise.
C'est pas mal.
Il est devenu royaliste.
Voilà, bah écoutez, merci Jean-François. Vous avez choisi la version de Django Reinhardt.
Ah oui, parce que je ne s'en lasse pas. C'est quand même une trouvaille sur le plan rythmique.
Effectivement. Merci Jean-François Cannes. À bientôt. Thank you. voilà, c'était pour fêter la libération en 1946. Django Reinhardt qui jouait la Marseillaise avec un M, un choix de mon invité Jean-François Kahn à l'occasion de la parution de son livre M, la maudite, la lettre qui permet de tout dire. Un beau sujet dont il nous a parlé ce matin et un livre qui vient donc de paraître aux éditions Talendier.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et nous allons finir avec mes petits choix musicaux de la semaine en commençant par un morceau très langoureux, un de ces grands slow symphoniques dans lesquels excellait Barry White au milieu des années 70. Celui-là vient de l'album Just Another Way to Say I Love You. C'est en 1975 avec les sublimes arrangements de Jane Page et le morceau s'intitule All Because of You.
Sitting here in a naked wonder, why your love comes down on me like rolling thunder. All this time I've been girl caught up in your world. I can't explain so many things. Are you just like each year has four seasons? It's all because of you. I feel the thrill, girl, the way I do. All the happiness I get you. Each time we cross, it feels so new. Without you I'd be lost. I'd pay any cost to keep your love with me. Oh, I'll be damned if I'm gonna lose the only love worth holding on to. I guess there's a reason why. Yeah.
Barry White, All Because of You, avec les violons de l'orchestre de Gene Page. C'était en 1975. Et vous savez que cette émission, c'est l'émission des contrastes. Alors là, on va carrément changer de registre. Dans mes petites pépites de la semaine, j'ai aussi retrouvé un disque de 1943 dirigé par Charles Munch. C'est un compositeur trop oublié qui s'appelle Jean Rivier, mais l'œuvre s'appelle Ouverture pour une opérette imaginaire. Thank you. Une très jolie composition de Jean Rivier, c'était Ouverture pour une opérette imaginaire par la Société des concerts du Conservatoire sous la direction de Charles Munch. Et pour finir, tiens, puisqu'on est le 11 novembre, vous savez, il vaudra mieux éviter de rouler trop en voiture dans la capitale, ça va être spécialement encombré. Laissez donc les voitures au garage, contrairement à Jean Sablon et Mireille dans cette chanson de 1932.
Le jour où ma citron emboutit ta citron, je t'ai offert, c'était courtois de te conduire chez toi.
J'ai dit non tout d'abord, mais il pleuvait si fort qu'étourdiment, je t'ai dit oui et nous sommes partis.
Dans mon auto, tous deux cacao sans prononcer un mot, tout contre toi sans bien savoir pourquoi j'éprouvais je ne sais quoi.
Quand par hasard tu surpris mon regard, j'ai rougi sous mon phare, puis j'ai souri, ton sourire m'a pris, nous nous étions compris.
Lâchant tout à coup ma direction,
ça m'a pris une autre direction. Tu as failli, tu t'étais du joli rentrer dans un taillis.
Ah oui, vraiment, il faut être prudent quand on est au volant. Mais dis-je, où allons-nous?
Partout, mais pas chez vous.
Allons-y donc, fiche narquois, c'est sans doute pourquoi. Défiant les écriteaux, attention aux marmots.
Tu as suivi, mais sans à l'heure, le chemin du bonheur.
Dans mon auto, tous deux cacao, nous ne soufflions mot.
Évidemment, lâchement, mais habilement, tu m'embrassais tout le temps.
Sans doute alors, interprétais-je à tort tes mots plus vite encore.
Dans un baiser, afin de me griser, tu as accéléré.
Gaiement, sans me soucier des virages, j'ai mis toute l'avance à l'allumage.
J'ai eu le trac, mais tu as eu le tact de couper le contact.
Ah oui, vraiment, il faut être prudent quand on est au volant. C'est ainsi que faute d'attention,
d'amour sont en réparation. Sachez toujours avant le chiffre qu'il
parfait. Ah, que c'est charmant cette chanson de Mireille et Jean Nohain, chantée par Mireille et Jean Sablon. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet avec Morgane Danan, réalisation Christine Amado. Et bien sûr, on se retrouve samedi prochain pour un spécial Isaac Strauss, dit le Strauss de Paris, avec Laure Schnapper et Jean-Claude Dion. Et puis moi, je vous retrouve demain après-midi à 15h en direct de Versailles pour le concert de la paix de l'Orchestre Philharmonique de Vienne et des chœurs de Radio France. Bon week-end à tous, vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.